les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, nous sommes de retour sur Radio Immo aux entretiens du cadre de ville et j'ai le plaisir de recevoir Amandine Richaud-Cramp. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Vous êtes ingénieure environnement urbaniste à l'ADEME. Alors vous avez tout à l'heure animé une conférence sur le vivre ensemble à l'échelle urbaine, faire société, les nouveaux outils de gouvernance des fonctions urbaines. Et vous avez notamment abordé un thème que je trouve très intéressant, c'est la transition juste. Comment est-ce qu'on peut définir la transition juste ?
Alors, la transition juste, c'est... Déjà, c'est pas moi qui ai travaillé dessus. Hein.
Oui.
C'est Solange Martin de l'ADEME, qui est sociologue à l'ADEME, qui nous a fait cette intervention et qui nous a expliqué comment on pouvait lier transition et justice sociale avec transition écologique, donc ce qu'on appelle la transition juste. Ouais. La transition juste, aujourd'hui, ça peut être un mot un peu valise. On le sait dans l'urbanisme, dans l'immobilier, on aime bien ces concepts, on aime bien inventer chaque année nouvelles choses. Comme le développement durable, on a pu mettre un peu tout dedans. Aujourd'hui, c'est vrai que la transition juste, c'est un petit peu le nouveau mot à la mode,
okay,
où on veut mettre des choses. Mais justement, il ne faut pas que ça soit un mot valise. Et donc,
parce que c'est un vrai concept.
C'est un vrai concept. C'est un vrai concept qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a été notamment développé aux États-Unis par des syndicats. Parce que les syndicats, ils connaissent cette justice et la transition, les changements des métiers.
C'est la base de leur modèle, la justice.
Exactement, le changement des métiers.
Ouais.
Et ça a été théorisé en notamment la transformation entre... La transition plutôt entre ce qu'on appelait les métiers bruns, donc des métiers qui étaient plutôt dans des industries polluantes comme le charbon à l'époque, vers des métiers donc qu'on appelait plutôt verts et donc qui avaient plutôt du bénéfice pour l'environnement ou qui étaient des nouveaux métiers qui allaient justement être moins, sans être forcément bénéfiques, mais être moins négatifs pour l'environnement. Et donc, ça arrivait du coup un petit peu en mode... Voilà, on va perdre notre emploi parce qu'il faut faire attention à ça. Qu'est-ce qui vaut mieux, sauver l'environnement ou manger à la fin du mois? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait d'opposer ces deux notions? C'est possible de montrer et qu'il y a un bénéfice et que pour qu'il y ait un bénéfice justement à la nécessité de sauvegarder la planète, parce que ça... On ne peut pas dire aujourd'hui, même s'il y a encore peut-être des réticences un peu obscures, mais le changement climatique est là.
Oui, on ne peut pas le nier.
On ne peut pas le nier.
Ou difficilement.
Difficilement, mais il faut quand même le répéter quand
ouais.
même. Et donc, ça existe. Cependant, on ne va pas mettre les gens au chômage. Il faut les aider à faire cette transition. Et donc, la transition juste, c'est arriver à faire la transition écologique tout en accompagnant la transition sociale et la transition des emplois, par exemple, et le faire en concertation et avec une gouvernance qui est large, parce qu'on ne peut pas décider du jour au lendemain, tout seul, vous allez faire ça, vous arrêtez, maintenant vous allez faire ça, et puis vous vous débrouillez. Bon, c'est pas possible, donc la transition juste, c'est vraiment faire en sorte de faire une transition sociale et écologique, et surtout... Ça, c'est encore quelque chose supplémentaire, sans laisser personne sur le bord de la route, car il faut avoir en tête que les publics les plus vulnérables aujourd'hui, que ce soit de façon socio-économique, les publics genrés, les publics ethno-racisés, sont touchés de façon disproportionnée par le changement climatique. Donc il faut en plus investir encore plus ces publics-là qui ont souvent les métiers qui sont plus facilement remplaçables par des technologies ou autres.
Des métiers qui sont remplaçables tout de suite, mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à long terme, d'autres métiers vont apparaître et la transition aussi, ça doit être un accompagnement vers ce qui sera le futur.
Tout à fait. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une opportunité. La transition écologique, elle est non seulement nécessaire, mais c'est en plus une opportunité économique. Et donc, pour arriver à cette transition écologique, il va falloir des nouveaux métiers. Et ces nouveaux métiers, il faut pas forcément les inventer, mais il faut les investir et donc changer les formations, mais aussi faire de la reconversion des métiers. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a des objectifs de rénovation énergétique des bâtiments et des logements. Il se trouve que pour remplir ces objectifs, non seulement il y a diverses difficultés hein, pour les remplir, et on sait que ça stagne un petit peu depuis quelques années, oui. Mais une des raisons notamment, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes et de professionnels qui ont les compétences pour faire de la rénovation énergétique écologique.
Oui.
Et donc ça limite, ça freine.
Les fameux artisans RGE notamment, reconnus garants de l'environnement.
Alors il y a les artisans RGE, mais même on est beaucoup notamment à l'ADEME sur la rénovation globale. Mm-hmm. Et donc ça, la rénovation globale, eh ben, c'est très très dur de trouver des gens pour le faire. Et donc ben, ça prend du retard. Déjà c'est compliqué parce que ben, là aussi on parle de rénovation. Donc on a des systèmes d'aide qui des fois demandent à avoir une avance de frais. Donc tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est des propriétaires. Il y a quand même déjà une petite inégalité de base hein, sur ça. Quand on parle sur du global, ben, il faut en plus se mettre d'accord avec si on est dans une copropriété ou autre. Et donc, ou sinon il faut vraiment encore plus avancer de frais. C'est des avances remboursables, mais avant d'être remboursable, il faut avoir l'avance. Et donc oui, ça peut, en plus de ça, si en plus vous ne trouvez pas les artisans selon où vous êtes positionné en France, et ben c'est compliqué. Et donc c'est ça aussi la transition juste, c'est comment on réfléchit.
Pour que tout le monde ait accès au même niveau.
Exactement, et en plus qu'on ait des professionnels pour le faire, parce que sans professionnels pour le faire. Et donc comment on les fait transitionner et faire de la reconversion, et on le voit bien en termes d'investissement, que l'emploi vert, en tout cas, va apporter vraiment du financement positif au pays et au territoire, surtout au territoire si on travaille au niveau non local.
Si je suis provoque, la transition écologique telle qu'elle a été pensée, elle est injuste ?
Disons, c'est difficile de dire qu'elle est injuste.
Ou elle risque d'être injuste.
Ce qui est injuste, c'est le système sociétal dans lequel on est et le format aujourd'hui économique dans lequel on est. Je ne vais pas partir sur des notions marxistes ou autres, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a quand même une incompatibilité avec un modèle capitaliste ou libéral et la transition écologique. C'est pour ça d'ailleurs que la notion de développement durable est des fois beaucoup critiquée, parce qu'il y a le mot développement tout le temps dedans, donc ça veut dire qu'il faut jouer avec la croissance, avec le développement, mais ça c'est d'autres notions. Mais la société est injuste en tant qu'elle telle. Donc de fait, les politiques, la façon dont elles sont construites, et notamment sur la transition écologique, elles augmentent peut-être les injustices qui sont déjà présentes, mais comme je disais, les publics vulnérables sont plus touchés par ça et ont moins d'accès pour pouvoir peut-être mieux se nourrir, mieux se chauffer.
Les passoires énergétiques, par exemple, on pourrait se dire que ce sont des personnes qui ont moins les moyens de rénover
leur
logement.
Et qui ne peuvent pas les rénover, puisqu'en plus, ils ne sont pas forcément propriétaires. Donc, c'est là où les politiques qu'on met de transition écologique peuvent paraître injustes. Et soyons honnêtes, des fois, c'est réfléchi de façon à pas penser à tous les gens de tous les territoires sur le terrain. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on a voulu mettre une taxe carbone et finalement qui était, elle, injustement répartie. Et c'est ça, c'est la répartition qui va être injuste. C'est à qui on demande toujours de faire les mêmes gestes, de faire des efforts. Et c'est là où il y a ce sentiment d'injustice. C'est le sentiment d'injustice et de déclassement qui fait que la transition est vue, écologique, est vue de façon injuste. Cependant, si on met un effort égal, et voire un effort proportionnel en fonction des pollueurs, typiquement, là, on rentre sur un système de transition juste.
Est-ce que justement ce sentiment fait, c'est celui-là qui explique que la transition écologique, elle peut être décriée ?
La transition écologique en tant que telle n'est pas décriée.
L'ambition, en tout cas, peut-être. Le calendrier, la mise en place.
Je pense que c'est même pas le cas, puisque quand on voit les enquêtes d'opinion qui sont faites de façon très fréquente, le sujet climatique arrive vraiment à la tête sujets de préoccupation.
Ouais. Donc ça, je pense que ça, c'est acquis.
Ça, c'est acquis. Et les gens le voient. Les gens le voient dans leur quotidien. Les catastrophes, d'ailleurs, naturelles qu'on a là cette semaine, je veux dire, les gens le savent maintenant et le comprennent. Cependant, ce qui est décrié, c'est des fois le manque, la décorrélation entre l'urgence climatique et les injonctions permanentes et les moyens mis à disposition pour le faire. Et surtout, qui doit le faire et qui met ses moyens. Donc ça va être plutôt ça, en fait, qui va être décrié. C'est pas la transition en tant que telle, parce que les gens le savent. Mmh. C'est comment on le fait et sur qui repose l'effort de faire cette transition. Et donc, c'est là où nous, alors, je dis l'ADEME, mais on le fait déjà sur la vulgarisation haute, mais je pense que tous les acteurs publics, que ce soit les aménageurs, que ce soit les élus ou autres, doivent aussi réfléchir à comment on aborde. Et c'était vraiment le sujet de ce focus. Et les exemples qu'on a eus dans ce focus de réfléchir, en fait, des nouvelles gouvernances pour faire société différemment dans ce contexte de changement climatique urgent et de montrer qu'en fait, du moment qu'on conserve, parce que ça on le fait depuis des années, mais qu'on le fait vraiment, c'est-à-dire qu'on écoute les gens et qu'on prend en compte et que ce qui va être dit va être appliqué et pas juste recueilli, et ben notamment sur les questions de bien-être ou qu'est-ce qu'on serait prêt ou pas à faire, quel niveau, sur quel calendrier, et ben là ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut le faire. Donc la transition écologique, ma collègue Solange Martin le dit très bien, c'est-à-dire que la transition sera juste ou ne sera pas. Donc c'est très clair. Et outre les questions techniques, outre les questions de système d'aide, outre ces systèmes de justice ou d'injustice ou d'équité, dans tous les cas, elle doit se faire avec les gens et pour les
gens.
Et donc c'est essentiel.
Est-ce que, ce sera ma dernière question, on ne doit pas mettre plus de concertation justement pour accompagner cette transition ?
Alors, je dirais non. Je dirais qu'il faut mettre plus de co-construction.
Okay.
La concertation, c'est quelque chose en plus qui est un peu dans le droit de l'environnement, qui est maintenant, depuis le Grenelle, un peu obligatoire. Et le truc avec la concertation, c'est que...
C'est devenu un mot valise.
Déjà, d'une, et c'est surtout devenu quelque chose pour se défausser. En okay. disant, on a concerté, donc les gens sont d'accord.
C'est pas nous, c'est eux.
C'est pas eux. C'est par exemple... j'ai été élue, même si c'est à 51% contre 49%, j'ai mandat 2. Non, il reste d'autres gens. La co-construction, c'est quand même, en fait, non seulement on se concerte, non seulement on participe, mais on construit. C'est-à-dire qu'on est dans les élus, ou en tout cas les décideurs et décideuses, sont en capacité de voir que ce n'est pas l'application du pouvoir. Par la co-construction, en fait, c'est pas une perte de pouvoir, c'est un enrichissement et que tout le monde est gagnant à la fin.
On se nourrit tous les uns des autres.
Exactement. Et donc, faut vraiment passer cette étape, arrêter de parler de concertation, faut vraiment passer dans l'étape de co-construction, de co-élaboration. Et même juste le travail des décideurs et décideuses, élus ou autres, devrait être juste de fournir un cadre de sécurité pour pouvoir s'exprimer et pouvoir construire ensemble, en fait, plutôt que de vouloir décider et imposer et sous des notions des fois de participation qui restent assez floues et qui sont des prétextes.
Vive la co-construction, c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup Amandine Richaud-Crambe. Je rappelle que vous êtes ingénieure environnement urbaniste à l'ADEME. Merci beaucoup.
Tout à fait, merci. Bonne journée.
Les entretiens cadres de ville sur Radio Immo et Radio Territoria.